Bonjour à tous. Donc la Bibliothèque publique d'information est ravie de vous accueillir, pour certains, de poursuivre cette folle journée avec vous, donc cette journée autour des séries Télérama. Et on est aussi ravis d'accueillir le public des bibliothèques de Bordeaux et de Clermont-Ferrand qui nous suivent en direct. Donc nous poursuivons cette journée samedi série Télérama et avec une discussion rencontre autour de la Serial Lover. Valérie Donzelli, l'actrice Valérie Donzelli, et je cède tout de suite la parole à la journaliste de Télérama, Émilie Gavoye, qui va vous, voilà, vous amener cet après-midi dans cette rencontre.
Oui, c'est moi. Merci pour la présentation et bonjour à tous et à toutes à Paris et dans les régions. Bonjour Valérie, merci d'être là pour partager ce moment, cette discussion autour des séries avec nous.
Bonjour, merci.
Pour ceux d'entre vous qui seraient venus ici guidés par le hasard ou par une curiosité complètement candide, permettez-moi de peut-être vous présenter en quelques mots, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, Valérie Donzelli. Donc vous êtes actrice, vous êtes réalisatrice, scénariste. On vous a découvert au cinéma au début des années 2000 chez Sandrine Wesset, notamment dans Martha. Et puis dans d'autres rôles, chez Gilles Marchand par exemple, qui a tué Bambi. On a également suivi ensuite vos films en tant que réalisatrice dans lesquels vous jouez, parfois, pas tout le temps, mais souvent. La Reine des Pommes et aussi bien sûr La Guerre est déclarée. Bientôt, on pourra vous retrouver dans un nouveau film, Notre-Dame, qui sort en salle le 18 décembre, juste avant les fêtes. Mais ce n'est pas Notre-Dame qui nous a amené et qui nous a donné l'envie de vous faire venir ici, de vous demander de venir. C'est un autre projet que vous avez avec Arte, puisque vous êtes en train de finir d'écrire, je crois, pour Arte, votre première série télé.
Oui, c'est une mini-série. C'est 9 épisodes de 30 minutes qu'on doit tourner en début d'année prochaine et qui, en fait, est une idée originale, puisque c'est Gaumont, au départ, qui voulait travailler avec moi. Donc j'ai réfléchi pour faire une série et j'ai réfléchi qu'est-ce que je pourrais raconter, etc. Et puis voilà, donc j'ai une petite idée et puis ça a marché, je l'ai développée et voilà, là on finit d'écrire et on devrait tourner l'année prochaine.
Ok, on en reparlera peut-être un peu plus largement tout à l'heure.
Oui.
Mais peut-être, je fais une petite incise, pardon, une petite parenthèse, pour ceux qui voudraient commenter sur les réseaux sociaux l'événement qui se trouve dans la salle ou qui soit dans les médiathèques à Reims, à Clermont ou à Bordeaux, ils peuvent le faire via le hashtag samedi série, série avec un S. Voilà. Je ferme la parenthèse et on va aller, on va avancer un petit peu dans votre, revenir aux sources de votre sériephilie. Alors, vous m'avez dit d'emblée, quand on s'est rencontrés, que votre sériephilie était plus réduite que votre cinéphilie.
Oui.
Mais néanmoins, il y a quelques séries qui ont compté pour vous. Que vous avez regardé à une période particulière. Moi, je voudrais peut-être demander à Thomas, le projectionniste, de nous projeter l'extrait numéro 1 qui va remonter aux sources.
Dans l'océan.
vous souveniez évidemment du générique, comme tout le monde.
Alors, je m'en souvenais, mais pas de tous les personnages. C'est ça qui est marrant, c'est qu'il y en avait que j'avais oublié. Et oui, bah là, on est carrément dans le feuilleton, quoi. C'est pas vraiment de la série, c'est plus du feuilleton. C'est des épisodes et des épisodes. Et, c'est même pas, il n'y a même pas une saison, c'est un truc, c'est 2000 épisodes. Mais non, alors ça, c'est... en fait, là, pourquoi j'ai parlé de Côte Ouest ? Parce que avant Côte Ouest, il y a eu Dallas, qui était vraiment le tout début du feuilleton télévisé et tout ça, qu'on n'avait absolument pas le droit de regarder parce que j'étais plus petite. Et c'était diffusé le samedi à 18h, je crois, et c'était l'heure de la messe. Donc ma mère trouvait ça complètement débile, en plus Dallas, elle disait c'est atroce. Et comme c'était à l'heure de la messe, on n'avait jamais le droit de regarder Dallas, sauf si on allait à la messe le dimanche matin. Mais alors la messe le samedi soir, déjà c'était une punition absolue parce que c'était horrible, il faisait froid. Enfin, pour moi c'est des souvenirs mais épouvantables d'hiver, froid, avec un prêtre en plus qui avait été opéré de la gorge, donc il avait une voix comme dans L'Exorciste, il parlait comme ça. C'était vraiment, mais... Et je me souviens que ça me faisait peur, quoi. J'aimais pas du tout ça. Et en plus, en sachant que je loupais Dallas, qui était quand même tout l'inverse, c'est-à-dire la luxure, les bijoux, les décolletés, les rouges à lèvres, les ongles longs, les trahisons, les tromperies. Enfin bon, vraiment, je crois que c'est vraiment très opposé à la messe du samedi soir de Sucy-en-Brie, la banlieue où j'habitais. Bref, et du coup, je me suis rattrapée. Avec Côte Ouest, avec ma sœur, quand on était en colocation toutes les deux, qu'on est venus faire nos études à Paris, et on avait une petite télé en noir et blanc, et c'était notre rituel, c'était de regarder Côte Ouest. Et on savait qu'on n'apprendrait pas grand-chose, et en même temps, on était fascinés par les coiffures, les maquillages, les rapports entre les gens. Il y avait toujours la méchante, alors on préférait toujours plus la méchante que la gentille. Enfin voilà, ça nous amusait beaucoup.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'à une époque, vous avez été inspirée niveau coiffure et niveau look par Côte Ouest ?
Non, mais c'est vrai que c'était assez drôle, parce que ce qui nous amusait beaucoup, c'était qu'elle dormait toujours, notamment le personnage de Donna Mills, je ne sais plus comment elle s'appelle, Abby, je crois. Elle dormait avec sa laque et son dégradé sur les yeux, puis elle avait des poses. Enfin, c'était aussi une espèce d'outrance... à la féminité, c'était très sophistiqué, les femmes sont très très sophistiquées, donc il y avait aussi quelque chose d'assez, je pense, d'assez fascinant à regarder ça, parce que à 18 ans, on n'est pas forcément comme ça, en tout cas moi j'ai jamais été une fille très sophistiquée, c'est venu un peu plus tard, j'aime bien les talons, me maquiller, tout ça, mais pas à ce point-là quand même.
Et est-ce qu'aujourd'hui, avec le temps qui a passé, est-ce que vous en gardez, qu'est-ce que vous en gardez finalement de Dallas et de Côte Ouest, de ces soaps, là, de ces feuilletons ?
Bah, j'en garde un rendez-vous un peu familial, quoi, un truc d'amusement. J'en garde pas quelque chose d'émotionnellement fort, en tout cas. Pour moi, c'est pas comme... J'ai pas le souvenir d'avoir été émue en regardant... ou alors peut-être quand J.R. meurt, il y avait un truc... À un moment, je me souviens de ce fameux épisode où J.R. meurt. Je sais plus si je l'avais vu ou pas d'ailleurs, mais on en avait tellement parlé que c'était... mais je crois que franchement, c'était... oui, c'était quelque chose de divertissant, mais pas d'enrichissant. Je cherchais pas à m'enrichir en regardant ça. J'avais à l'époque... pas vraiment de regard non plus sociologique, quoi. C'est-à-dire, je me disais pas, allez, je vais regarder Côte Ouest pour étudier l'affaire d'un point de vue sociologique, non. Non, non, je regardais vraiment parce que ça m'amusait, puis parce que c'était notre rituel avec ma sœur, que d'un coup, on avait le droit de regarder un truc qu'on n'avait pas regardé quand on était petite. Alors, c'était pas tout à fait les mêmes, mais je crois que c'est les cousins ou les frères. Entre-temps, il y a eu Dynastie, mais ça, Dynastie, j'ai jamais...
Il y a un frère de J.R., regardé. Je crois, dans Côte Ouest.
Comment ?
Il y a un frère de J.R., je crois.
Oui, c'est ça. Enfin, je sais plus. Enfin, bref, ils sont tous un peu frères ou cousins. Et puis, voilà, quoi.
Et est-ce qu'il y a d'autres séries de cette époque-là ou plus récentes qui vous ont fédéré avec votre sœur ou
alors
vos enfants ?
Non, c'est vraiment que ça. Après, avec mes enfants, maintenant, il y a Friends, parce que mes enfants adorent Friends, qui est quand même une série, pour le coup, que j'ai regardée. Alors, j'ai pas regardé toutes les saisons. Mais j'ai regardé Friends. Et là, pour le coup, Friends, c'est vraiment une série dans laquelle on peut avoir de l'émotion et tout ça. Il y a quelque chose qui... c'est pas du tout la même chose en termes d'écriture et tout. On n'est pas dans le soap On est plus voilà, dans la vraie série, c'est le début de la vraie série, en fait. Et puis, il y avait Seinfeld, que, voilà, où ça, c'était plus avec... dans mon couple, on regardait ça, et ça nous amusait beaucoup, à une période, en plus, qui n'était pas forcément très marrante. Donc, c'était vraiment un divertissement de... C'était comme un rendez-vous, voilà, de... C'était vraiment très drôle. Et puis, oui, un peu Sex in the City aussi. Mais j'ai pas... En fait, j'ai des références assez anciennes, parce que j'avoue que je ne regarde pas beaucoup de séries. Parce qu'aujourd'hui, ça prend énormément de temps, je trouve, de regarder une série. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment le temps de ça. Donc, je suis pas... j'ai pas mal de retard.
Et quand vous les regardez comment? Vous les regardez, vous avez un abonnement Netflix ou vous les regardez?
Oui,
dans
j'ai
DVD,
un abonnement Netflix. Et sinon, je regarde. J'ai une copine plus jeune que moi qui s'est téléchargée, ce que moi je ne sais pas faire. Donc, quelquefois, elle me file une clé USB et elle me dit ça, il faut le voir, c'est trop génial et tout. Donc, voilà. C'est comme ça que j'ai vu la série de Woody Allen, j'ai vu Love, la série d'Abato et tout ça que j'ai trouvé super. Puis d'autres, enfin voilà, il y en a quelques-unes que j'ai vues, mais j'ai pas, par exemple, vu The Wire, j'ai pas vu les grandes séries dont tout le monde parle et tout ça, je les ai pas encore regardées.
Alors, il y a quelques instants, vous parliez de Seinfeld, ça tombe bien, je vais demander à Thomas de nous envoyer le deuxième extrait.
Non, ils ont juste à avoir plus de cops sur la force, c'est aussi simple que ça.
Cops, je ne veux même pas parler de cops, je veux voir des garbage men. C'est beaucoup plus important, tout ce que je veux voir sont garbage trucks, garbage cans et garbage men. You're never going to stop crime. We should at least be clean.
I tell you what they should do. They should combine the two jobs. Make it one job, cop slash garbage man. I always see cops walking around with nothing to do. Grab a broom. Start sweeping. You sweep, 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 sweep. Catch a criminal, get right back to sweeping.
You should run for mayor.
Ah, nobody listens.
Where is someone? I'm starving.
I think this is him right here.
Oh. Is there a table ready?
How many?
How many?
Is Tatiana coming?
Well, I have to call her, tell her where we are. Very lucky she's even considering seeing me at all.
Really? I thought things were going okay.
They were. It's kind of complicated.
Well, what is it?
How many?
All right, four. Sign phone. Four.
I'll be 5-10 minutes.
Let's go someplace else. I am too hungry.
We might as well just stay here. We haven't got that much time if we're going to make the movie.
I'm going to call Tatiana.
Where's the phone? Tatiana.
Excuse me, are you going to be very long?
Lashbrook, Port! So that I do a terrible thing?
You mean lying to your uncle?
I couldn't have dinner with him. Planned line from outer space. One night only. The big screen. My hands are tied.
You know, it's a public phone. You're not supposed to just chit-chat.
Jerry, get menus so when we sit down, we'll be able to order right away.
Can't look at a menu now. I gotta be at the table.
He knows I'm looking. He sees me. He just doesn't want to look.
Vous vous souvenez de cet épisode-là?
Non.
Alors... Je l'ai choisi pour une raison particulière, parce que moi je trouve qu'il résume très bien ce qu'est Seinfeld, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à attendre, en fait, dans cet épisode-là, ils passent leur temps à attendre, ils vont, pardon, vous spoil un peu si vous vouliez le regarder, mais ils vont attendre jusqu'à la fin de l'épisode pour avoir cette table qu'on leur promet, ils ne l'auront jamais, et puis George va passer son temps à attendre le téléphone, qu'il aura, voilà, il n'y arrivera jamais. Et c'est le propre de Seinfeld, il ne se passe rien, mais c'est passionnant malgré tout.
Ah oui, c'est... Non, mais moi ça j'adore cette série parce que c'est vraiment sur des choses auxquelles qu'ils arrivent à décortiquer, dans lesquelles on peut complètement se retrouver, surtout à l'âge où je les ai regardées, où j'avais vraiment l'impression d'être comme eux, de pas faire grand chose de ma vie, d'être là à attendre quelqu'un. Enfin, c'est vraiment ça, quoi. Ils se croisent, ils se racontent des choses, mais personne n'est vraiment fixé dans sa vie. Ils ont tous Ils sont tous flottants, quoi. Et c'est assez jubilatoire. Et c'est vraiment très bien écrit, parce que c'est très difficile, en fait, de réussir comme ça à tenir toute une saison sur du rien. C'est quand même assez dément. L'inverse de Friends, où il se passe beaucoup de choses.
Et l'inverse de Fred, de Friends, pardon, aussi, où Friends est une série quand même relativement bienvenante, là où Seinfeld est plus noir.
Ah oui, c'est beaucoup plus noir. Oui. Mais d'ailleurs, ça, c'est très drôle sur le rapport qu'il a, où il parle des policiers qui devraient être aussi des éboueurs. C'est-à-dire, quand ils ne ramassent pas, ils balayent, ça dit quand même quelque chose sur le rapport de la police qui... aux États-Unis, qui est quand même, je crois, pire qu'ici, quoi, où ils sont vraiment...
Et à New York, en plus, dans ces années-là, parce que ça remonte quand même un petit peu maintenant, Seinfeld, et
c'est pas
New York d'aujourd'hui.
Oui, c'était beaucoup plus... C'était un New York beaucoup plus... avec beaucoup plus de criminalité, pas du tout aseptisé comme aujourd'hui, où il n'y a que des boutiques de luxe.
Et voilà, quoi.
Non, mais après, cet épisode, je m'en souviens pas précisément parce que je les ai pas vus depuis longtemps et tout ça, mais je me souviens d'un épisode hyper drôle où il allait dîner avec une femme, je crois, et elle parlait très doucement. Et en fait, en plus, ce qui est marrant, c'est que souvent, il dit ce qu'il va se raconter. C'est-à-dire qu'il dit « Ah là, je vais dîner avec un tel ». Il dit « Ah bon, t'es encore avec elle ?» Oui, je sais, mais je comprends jamais ce qu'elle me dit. Et en fait, il dîne avec elle et effectivement, elle parle très doucement. Et du coup, pendant tout le dîner, il l'a fait répéter. Mais c'est hyper drôle parce que... Pardon, tu dis... Tu peux dire... Ils sont dans un restaurant, donc il l'a fait répéter une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, ça symbolise vraiment le problème de communication qu'il a avec elle, tout simplement. Donc c'est symbolisé par un truc très pragmatique qui est qu'elle parle doucement. Mais ça va au-delà de ça, c'est juste qu'ils ne s'entendent pas du tout. Et c'est très drôle.
Et est-ce que ça, Seinfeld, c'est une inspiration pour vous quand vous écrivez ? Parce que souvent, c'est des personnages qui sont un peu englués dans des situations un peu compliquées et qui essayent de...
Oui, un peu. Et en même temps, c'est vrai que moi, la série que j'ai écrite, il se passe quand même beaucoup de choses parce que c'est vraiment des personnages qu'on suit comme ça sur une durée de plusieurs années presque. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a dans l'humour et dans l'empêchement et dans la complexité des personnages, le fait que on est tous une chose et une autre. Enfin voilà, qu'on a tous des ambiguïtés qui font qu'on a du mal à vivre. Quoi. C'est vrai que je m'inspire pas mal de Seinfeld, de Friends. Pour ça, oui, un peu.
Et dans Seinfeld, dans les trois personnages qu'on a vus, mais peut-être je rajouterais aussi le personnage du voisin de Seinfeld, est-ce qu'il y en a un des quatre qui sont les personnages principaux que vous affectionnez particulièrement ou que vous sauveriez plus que les autres ?
Franchement, je les aime tous. Après, la fille, je la trouve super. Je me souviens plus de son prénom d'ailleurs. Comment elle s'appelle ?
Hélène.
Hélène. Et Georges, qui est irrésistible. Parce que lui, Seinfeld, c'est celui vraiment... il a le rôle du clown blanc, quoi. C'est celui qui, qui distribue un petit peu le jeu. Et d'ailleurs, je crois que c'est lui qui avait écrit la série.
Oui.
Donc c'est vraiment, ça m'étonne pas, parce qu'il a vraiment le personnage. Il est là et c'est vraiment le numéro 10, quoi. Il distribue les cartes et tout ça, mais il se met pas tellement lui en avant. C'est vraiment les autres, en fait, qui apportent la comédie, je trouve, dans la série. En tout cas, dans mon souvenir. Et c'est vrai que le personnage de George est irrésistible. Et elle aussi, elle est géniale. Je me souviens d'un épisode aussi où elle va à la salle de sport et puis elle croise en sortant de la salle de sport un mec qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps et il l'embrasse. Il l'embrasse là et elle sait, et pendant toute la série, elle se demande s'il l'embrassait sur la bouche ou s'il l'embrassait à la commissure des lèvres. Alors lui dit non, j'étais là et t'as pas embrassé sur la bouche, il t'a embrassé là. Elle dit mais quelqu'un qui t'embrasse là... C'est comme s'il t'embrassait sur la bouche. Non. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je le rappelle ? Est-ce que je le rappelle pas ? Enfin, et ça dure comme ça pendant 30 minutes. Quoi.
Oui, il y a une vraie coupe de la situation.
Oui, vraiment, il explore. En fait, il part d'un détail et il tire toutes les ficelles de cette situation. Quoi.
Et pour la petite histoire sur cet épisode-là, j'ai appris en préparant la rencontre que justement Seinfeld et Larry David, son co-auteur, ont failli se faire virer après cet épisode-là parce que justement on leur a reproché qu'il ne se passe trop rien. Voilà. C'était pas mal. Donc on comprend dans les références que vous nous citez, Seinfeld, Friends, que vous avez un goût quand même pour les sitcoms américaines des années... 90. Et donc vous me citez Friends. Friends, qu'est-ce qui continue de vous... Vous disiez que vous la regardiez avec vos enfants. Qu'est-ce qui continue de... Vous, de vous séduire et eux, de les attraper, en fait.
Bah, je crois quand même que... Il y a quelque chose qui fait beaucoup fantasmer dans Friends, c'est l'idée de la colocation des... et de l'amitié. C'est-à-dire que c'est vraiment une famille qui se choisisse, quoi. C'est-à-dire que c'est ces six amis et ils sont à la vie, à la mort. En même temps, ils s'engueulent, en même temps, ils s'aiment, ils se séparent. Voilà, il y a des histoires de coucherie, de machin. Enfin, et il y a vraiment cette espèce de... Oui, il y a quelque chose de très réconfortant dans, dans l'humanité qui se dégage de cette série, la solidarité de ses amis, en fait. Et je pense que ça, c'est rassurant. En tout cas, moi, ma fille, je sais qu'elle fantasme sa vingtaine, un peu comme ça. Elle se dit, oh là là, je vivrai en coloc. Enfin, alors, c'est sûr que Friends, c'est par exemple une série dans laquelle les questions sociales ne sont pas très... très représentée. C'est-à-dire qu'ils habitent quand même un loft dans New York magnifique. Elle est cuisinière, mais bon, elle a quelquefois des problèmes d'argent parce qu'elle ne trouve pas vraiment de boulot. L'autre, elle est petite fille, elle est fille de riches, je ne sais plus, Californien, je ne sais plus d'où ils viennent, mais non, peut-être pas de Californie, mais en tout cas, ses parents sont riches. Et elle est serveuse parce qu'il faut qu'elle apprenne le sens de la vie pour se prendre en main. Il y en a un qui a un boulot qui gagne pas trop mal, il y en a un qui est acteur, donc il est tout le temps au chômage, mais quand même on sent que c'est un peu idéalisé, quoi. C'est pas très réaliste, quoi. C'est pas très alors Seinfeld, c'est plus ancré dans une réalité sociale et politique et tout ça, alors que Friends, c'est vraiment c'est un peu plus ambiance Barbapapa, quoi. On est dans une bulle, c'est très coloré, même la déco, les costumes, enfin ils sont dans quelque chose de très rassurant. Et je pense que c'est ça qui fait que la série fédère autant. Après, la qualité d'écriture de Friends, c'est quand même quelque chose de génial. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est une histoire principale qu'on suit plus deux autres intrigues. Et à chaque fois, ils sont... moi, je trouve que c'est extrêmement bien écrit. Et que c'est, je le sais pour écrire une série en ce moment, à quel point c'est difficile... de trouver les personnages, parce qu'en fait, Friends, c'est vraiment ça, et même Seinfeld, mais c'est vraiment trouver les personnages, leurs caractéristiques, leurs problématiques, et après tirer les fils de chaque personnage pour créer des intrigues et tout ça. Et moi, je crois que c'est ça qui me plaît dans la série, c'est vraiment l'idée de la création de personnages, quoi. C'est vraiment des personnages qu'on suit, on dort avec eux, on mange avec eux, enfin, on les adore, quoi. Et il n'y a pas ça au cinéma. Le cinéma, c'est plus un tout, c'est plus un film, c'est plus une histoire, c'est plus une mise en scène, c'est plus une émotion qui vient d'ailleurs. Alors que là, c'est vraiment la création pure de personnages. Parce que la mise en scène, elle est très basique. C'est pas ça qui... C'est vraiment ce que vivent les personnages et ce qu'ils disent. C'est vraiment autour des personnages, quoi. Et ça, je trouve que c'est passionnant.
Et également, peut-être, dans Friends, le fait, sous couvert de légèreté, d'humour, de situations comiques, d'amener des thèmes, des sujets ou des types de personnages qu'on verrait, on n'aurait pas vu ailleurs.
Oui, par exemple, le personnage... Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Le frère de Monica...
Ross.
Ross, le personnage de Ross... qui est avec une femme, qui se maque avec une femme alors qu'elle attend un enfant de lui et qui lui dit merci, au revoir. Enfin, c'est bouleversant parce que lui, il est privé de cet enfant d'une certaine façon, il n'a rien demandé. Et en même temps, les deux filles, elles sont aussi dans leurs droits. Enfin, c'est des choses comme ça qu'il traite, qui sont assez... qui étaient assez nouvelles parce que c'est une série qui est quand même assez vieille maintenant. Enfin, je crois que c'était il y a 30 ans. Ou...
Il y a 25 ans, je crois.
Oui, enfin, c'est dingue, quoi. Et donc, il y a 25 ans, il parlait de choses un peu avant-garde, quoi.
Et quand on s'est rencontrés pour préparer cette rencontre, vous m'avez dit que vous trouviez que certaines séries américaines, je ne sais pas si vous pensiez à celle-là, étaient plus politiques que le cinéma américain, finalement, arrivaient à porter des sujets plus politiques. C'est à Friends que vous pensiez ou à d'autres séries plus récentes ?
Non, mais moi, j'ai envie de dire que c'est... un peu le cadre des séries sur le cinéma. C'est vrai que, par exemple, Transparent, la série de l'homme qui s'habille en femme, qui l'annonce à ses enfants, enfin, c'est
qui fait même sa transition.
Oui, qui, sa transition. Ça, alors, j'ai pas vu toute la saison, je me suis un peu. Non, mais ça, par exemple, c'est des choses qu'on voit très peu au cinéma. Il y a quand même. La série va beaucoup plus loin dans les thèmes qu'elle aborde et tout ça que le cinéma. Il y a un vrai espace de liberté créatrice. Je sais pas à quoi c'est dû d'ailleurs. Peut-être que le cinéma a quelque chose de. Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que la série, elle est le regard qui est porté sur les femmes. Il y a des séries, enfin voilà, il y a des, par exemple Sex in the City, c'est vraiment quelque chose qui a amorcé une nouvelle vision des femmes new-yorkaises qui parlent quand même d'une ville où les femmes trouvent pas de mecs parce que il y a plus de femmes que de mecs. Je crois que les statistiques, c'était un garçon pour 10 nanas, enfin un truc complètement délirant. Et enfin, c'est vrai que la série, en tout cas, montre des thèmes qui ne sont pas forcément explorés au cinéma.
Et ben justement, vous parliez de Sex and the City, je vous propose de regarder l'extrait, pas l'extrait numéro 3, mais l'extrait numéro 4.
Later that day, the crew of New York gathered to toast the maiden voyage of my bus.
Where's Mr. Big?
Oh, he couldn't make it.
What do you mean he couldn't make it?
On this work thing.
Oh, but this is your bus party.
Oh, I told you, you shouldn't have. Well, never mind.
What, he's not here because I slept with him on the first date?
Basically, yes. When you sleep with a man on the first date, the relationship will never be anything more than sex. Cheers.
I didn't want to admit she was right. I just wanted to see my bus and get the hell out of there.
Oh, shit.
Yeah. Derek! Hi!
Hey.
Did I miss it?
Hi! Not yet, no. Hey, I thought you were going to bring Lizzie.
Oh, yeah. I finally asked her to join me in public. She turned me down.
Why?
She told me she met somebody else who doesn't have my problems with intimacy.
Oh, sorry.
Quiet! Here you come!
Sweetie, don't worry. I mean, nobody in New York notices a bus until it's about to hit them.
That's right.
Et alors justement, en quoi elle était, vous l'aviez trouvé révolutionnaire, nouvelle,
la proposition sur le rapport à la sexualité, voilà, c'est Nana qui parle que de ça tout le temps. Il y en a une d'ailleurs, la grande blonde là qui.
Samantha.
Ouais, qui est une vraie consommatrice d'hommes. Et puis que c'est des femmes qui sont indépendantes, elles ont tout un boulot, elles gagnent bien leur vie. Enfin, il y a un truc où on montre voilà, des femmes fortes, quoi, qui sont dans une ville dure, et qui sont là, qui s'en sortent, et qui en même temps sont hyper sexy. Enfin, voilà, c'est vraiment, je trouve. Un regard complètement nouveau qui a été porté comme ça sur cette génération de femmes qui est la mienne pour le coup, et c'est vrai que ça faisait du bien, quoi.
Et qui allez-y.
Pardon. Et je trouve qu'en plus, contrairement par exemple à Fleabag là qui a été que j'ai vu, il y a quelque chose de pas triste, quoi. C'est mélancolique, mais c'est pas des tordues. Elles sont pas, on sent pas des nanas. Complètement.
C'est moins noir que Fleabag.
Oui, c'est beaucoup moins noir. Et moi, je trouve, ça fait aussi du bien, je trouve, parce que quelquefois, montrer des nanas un peu hors des sentiers battus, mais qui sont forcément dépressives ou très sombres et tout ça, je trouve ça dur, quoi. Et là, je trouve que c'est fait avec une espèce d'insouciance, comme ça, elles sont marrantes, quoi. Elles sont sexy, elles sont belles, elles sont marrantes. Elles couchent avec des mecs, elles s'en sortent pas, elles sont paumées, elles boivent, elles sont tout le temps à boire du champagne. Enfin, elles ont un truc vraiment rigolo, quoi.
Et quand vous m'avez parlé de ces séries-là, de Seinfeld, de Sex and the City, mais aussi de Friends, j'ai fait le lien en me disant que c'était quand même des séries qui parlaient toutes un peu de manière différente de du fait de vivre dans une métropole gigantesque et de s'y sentir un peu perdu et de s'y sentir un peu seul. Vous faites ce lien-là
Oui, ben moi, moi j'adore vivre à Paris. C'est vraiment, pour moi, c'était quand j'étais enfant, la ville de tous les possibles. Enfin, c'était mon New York à moi, quoi. Ça me faisait complètement rêver et tout. Et quand je suis arrivée à Paris pour faire mes études, j'avais 19 ans, j'habitais une chambre de bonne au 7e étage de 7 mètres carrés dans le 16e arrondissement. Et c'est vrai que je me sentais libre, quoi. J'avais un truc. Et c'est vrai que Paris, à ces âges où on est... alors là, dans Sex and the City, elle travaille et tout, mais quand on est comme ça, étudiant, qu'on doit trouver sa voie, qu'on doit bosser à côté, enfin, il y a quand même un truc où on sent... la solitude est jamais très loin, quoi. Donc les amis, c'est hyper important, en fait. Et moi, qui ai beaucoup déménagé enfant et tout ça, j'ai pas d'amis d'enfance. Donc les amis que j'ai depuis maintenant, bah, c'est des amis que j'ai rencontrés à Paris en étant étudiante, donc à l'âge de 19 ans, quoi. J'ai pas d'amis avant. C'est mes plus vieux amis, je les ai rencontrés à cet âge-là. Et c'est vrai qu'il y a un truc de... l'importance des amis, je trouve, c'est quelque chose de, pour moi, qui est vraiment très précieux, quoi.
Et donc vous vous retrouvez dans ces
oui, scènes-là. Et c'est vraiment des groupes d'amis à chaque fois, donc plus ou moins grands et tout, mais on sent qu'il y a un vrai rapport humain qui est beau entre eux, où ils sont tous différents et en même temps c'est un peu les rapports rêvés, parce que à la fois ils se parlent, à la fois voilà, on n'est pas... c'est ça qui est beau aussi avec le cinéma, avec les séries, tout ça. C'est que c'est écrit, tout ça. Donc forcément, on s'arrange pour mettre la médiocrité. En tout cas, si on utilise la médiocrité, on en fait quelque chose de drôle. Mais c'est pas plat, quoi. Donc c'est haut en couleur, c'est émouvant, c'est drôle. Les gens sont beaux, sont intelligents, sont touchants. Enfin, voilà.
Vous me citiez à l'instant, vous nous citiez, vous évoquiez Fleabag comme, oui, comme une potentielle héritière parmi les plus récentes de Sex and the City. Est-ce que vous en voyez d'autres, des séries qui doivent quelque chose, ou de personnages féminins qui doivent quelque chose à Sex and the City?
Oh, il y en a sûrement, mais je ne les connais pas forcément. J'avoue que... Je pense que je n'ai pas assez de connaissances là. D'un coup, sinon, j'avais vu une autre série aussi anglaise. C'est souvent les Anglais, en fait, hein, qui d'une nana qui tombe enceinte avec un mec le premier soir, mais je ne sais plus comment ça s'appelle.
Catastrophe.
Ah, peut-être, c'est ça. Il y a aussi un petit côté comme ça, quoi. Et puis finalement, il tombe amoureux. Et... c'était pas mal, c'était assez marrant.
Écoutez, celle-là, je ne la connais pas, donc j'irai la, j'irai la voir. Sex and the City, alors on ne l'a pas vu dans l'extrait, mais a une autre particularité, c'est qu'il y a une voix off. Hein. Il y a une voix qui raconte, c'est celle de Carrie, hein, le personnage principal qu'on voit en photo sur le bus. Et ce procédé narratif, je crois que c'est quelque chose que vous aimez bien.
Ouais,
alors parce que moi, ça vous renvoie aussi à la nouvelle vague.
Oui, alors moi, c'est marrant parce que dans mes films, c'est plus un narrateur, c'est pas vraiment une voix, c'est pas un personnage qui parle, c'est souvent un personnage extérieur au film qui prend en charge le récit. Alors il y a des endroits, par exemple, comme dans Main dans la main, où il y a à la fois le narrateur et parfois les personnages qui parlent aussi. Mais c'est vrai que j'aime bien ce principe de... oui, de raconter l'histoire. Il y a quelque chose qui est rassurant, je trouve. D'un coup, on nous raconte une histoire, quoi, et c'est clairement dit, en fait. Donc il y a quelque chose qui repose.
Et c'est aussi d'ailleurs un peu le cas dans Seinfeld de manière différente, parce que tous les épisodes sont introduits par lui qui
est
met
sur
en scène.
Oui, ouais, tout à fait. Mais là, dans le cas de Sex and the City, en plus, c'est elle qui est journaliste, donc... et c'est vrai que c'est un personnage, ça nous la rend, elle, d'autant plus... attachante, c'est vraiment, on est quand même dans son point, on a toujours un peu l'impression d'être dans son point de vue à elle. Et d'ailleurs, ça a été un phénomène, cette fille, avec cette série, même sur ses tenues, d'ailleurs, toute la mode, tout ce qu'elles inventent dans les tenues, dans la mode et tout ça, ça a été
repris partout, tout le monde voulait les habiller après. Enfin, c'était puissant, quoi. C'est vraiment un truc puissant qui s'est passé avec ça.
Et est-ce que vous l'avez regardé seule, vous l'avez regardé avec des copines, vous débriefiez avec
vraiment,
des copines?
Non, j'ai vraiment regardé ça toute seule à une période de ma vie particulière, puisque c'était la période où mon fils était malade et tout ça. Donc c'était vraiment une petite fenêtre. Et je regardais ça le soir et tout ça. C'est pour ça que j'ai un attachement particulier, je crois, à cette série, c'est que ça me faisait vraiment du bien d'être très loin de mon quotidien à moi, avec des filles marrantes et en même temps intelligentes. Et voilà, enfin ça.
Et vous me disiez également que ça vous avait fait un peu visiter New York.
Oui,
manière.
Parce que alors ça c'est un truc que j'adore moi, c'est quand de voir des films qui se passent dans des villes. Quand j'ai envie d'être dans la ville, ben je regarde parfois des films qui se passent à Londres, ou qui se passent à New York, ou qui se passent en Chine, ou enfin pour avoir l'impression d'y être, quoi. Mais c'est un truc.
D'accord. Et alors, il y a une autre série avec une héroïne féminine dont vous avez parlé tout à l'heure brièvement, dont j'aimerais bien qu'on regarde un extrait, l'extrait numéro Rosanne. 3, absolument.
Like you, I
breakfast!
She is such a dog! Any jam?
No.
Nope. Mom, where's my English book?
I sold it.
Mom.
It's on top of the TV.
Okay, I'll see you at school. Yeah, bye. Mom.
What?
I got a knot in my shoe.
Wear loafers.
Come on, Mom.
All right, give it here.
Can I have pie for breakfast?
No, that's contaminated. Go sit down and eat your breakfast now, and don't spill your milk today, neither. Here you go.
Your coffee?
Pan.
Yeah?
Isn't there coffee every morning?
Yes.
In the 15 years we've been married, has there ever been one morning where there wasn't any coffee?
No.
Then why do you have to ask me every morning if there's coffee?
Is there toast?
What's going on with you?
Mother, this is very important. Our school's having a food drive for poor people.
Well, tell them to drive some of that food over here.
Mother.
Two cans, that's it.
Don't touch that cream corn.
I'll get it. Hello?
Mom!
He started it.
Knock it off, you two. Stop it. Get away, get away. Yeah. Sit
Listen
down.
To your mother.
You hurt your father.
Honey, don't tell him that.
Get off the phone.
Mom.
Now.
I gotta go.
Dad, you know it'd be really good for breakfast.
What?
Pie.
Tell him no.
No.
Oh, hi. I looked in the mirror and I'm getting boobs. Becky can't talk now.
Non, mais je l'ai oublié. Mais je ne sais pas s'ils accrocheraient. Parce que Rosanne, c'est vraiment une découverte sur un personnage de femme forte. Parce que c'est vraiment ça, qui a trois gamins, qui fait tout le boulot, enfin, qui gère la famille, quoi, la fameuse charge mentale dont on parlait tout à l'heure en coulisses. Et là, l'épisode, c'est vraiment ça qui montre. Quoi. C'est cette femme, tout le monde la sollicite, tout le monde... Et qui en même temps tient la baraque, quoi. Donc
ouais, elle fait le job. Hein.
Elle fait le job et en même temps c'est une classe, c'est très populaire. Enfin, c'est vraiment une série géniale et justement qui montre cette femme qui est pas dans la culpabilité, enfin qui est grande gueule, qui fait le job mais en même temps qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui est l'inverse de la mère au foyer, comme on peut l'avoir de façon un peu cliché, douce, attentive. Elle a une répartie d'enfer et tout, elle est géniale, quoi.
Oui, c'est une mère indigne, mais en même temps, une mère complètement pleine
de
tendresse.
Et en même temps, elle est tout l'inverse, puisqu'elle est pleine d'amour et qu'elle est au poste, quoi.
Et elle a, cette série, quelque chose de particulier aussi, vous le disiez, c'est qu'elle elle raconte quand même la vie d'une famille américaine de la classe ouvrière, oui. Qui n'est pas quelque chose qu'on a vu tant que ça.
Oui, parce que ce qui fait rêver les gens, c'est pas les problèmes d'argent, c'est les belles tenues, les belles toilettes. Enfin, en tout cas, il y a eu toute une période où c'était ça. Avec Dynasty, Dallas, on était avec les puits de pétrole et les milliardaires et tout ça. Et là, d'un coup, on bascule dans une... Alors, il y avait la petite maison à prairie qui avait eu pas mal de succès sur des gens qui étaient très dans le besoin. Mais là, c'est vrai que ça parle de la classe... ouvrière, ben d'ailleurs, quand elle dit c'est pour les pauvres, ben, dis-leur de nous en garder une part et tout ça, on sent que c'est vraiment la middle class américaine. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, je pense qu'ils sont. Les parents sont un peu en bon point. Enfin, ils ne sont pas complètement obèses, mais ils sont quand même forts.
Il y a une nourriture.
La nourriture, tout ça, ça dit beaucoup socialement. Et la série a eu un succès. Pas que dans les classes populaires, je crois que c'est vraiment un succès de tous les côtés, quoi. Ça a été très populaire, mais pas que chez les gens de la classe moyenne.
Il y a même eu un reboot hein, qui a duré une saison en 2018 et où on apprenait que Roseanne votait Trump. Il y a eu une suite de la série et qui a été annulée parce que l'actrice a fait un tweet raciste, je crois, par ailleurs. Voilà.
Bon, après, ça reste.
C'est autre chose. Mais. Et puis on parlait dans l'extrait qu'on a vu, on voit pas, c'est la séquence d'après, mais si ça peut vous donner envie de la voir, c'est aussi un des premiers rôles, je crois, à la télé, ou en tout cas un des rôles par lequel on l'a découvert à la télé, de George Clooney, qui joue le patron de Roseanne. Et on le voit dans la scène d'après.
Mais d'ailleurs, on peut la revoir où, cette série, Roseanne ?
Elle existe en DVD, figurez-vous.
Ah oui, d'accord. Oui. Okay. Il faut encore avoir un lecteur de DVD.
Voilà. Et vous, par exemple, comment vous l'aviez vu à l'époque à la télévision ou vous
Ah oui, bah, à l'époque, c'était la télévision, oui, bien sûr. Je crois que ça passait à 18h, c'était l'heure de ce genre de série, comme Madame est servie, tout ça. Alors, je crois que c'est plus ancien, ça. Mais oui, je me souviens que c'était le programme de 18h30, 19h, quelque chose comme ça. Donc oui, j'ai découvert ça à la télévision, oui.
Et est-ce que vous considérez, du coup, que à l'exemple de Roseanne, que la série télé est un bon endroit pour porter des problématiques sociales, pour...
Ah bah oui, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois dans le format, cette idée des personnages comme ça qui constituent le cœur de la série fait qu'on peut leur faire vivre des choses multiples, des histoires multiples, en fait. Et je crois que c'est ça la différence, peut-être... avec le cinéma, c'est que c'est une trajectoire, alors que là, c'est une trajectoire, mais sur des mois, c'est au quotidien, c'est ce qui, à mon avis, a donné d'ailleurs la télé-réalité. C'est-à-dire que d'un coup, on s'est dit, mais pourquoi on filmerait pas des gens en vrai ? Parce que ça parle du quotidien de personnes fictives. Donc je pense qu'en fait, la télé-réalité est arrivée parce que la série a existé avant. Je pense que vraiment...
Une mise en scène du quotidien.
Oui, c'est une mise en scène du quotidien. Et d'ailleurs, la télé-réalité, quand on a regardé au début, je me souviens de Love Story et tout, c'était des caméras, des découpages. Enfin, il n'y avait plus du tout de mise en scène. Et d'ailleurs, les séries, c'est un peu ça. C'est plan large, plan serré. C'est tourné à plusieurs caméras. Enfin, il y a quelque chose d'assez basique dans l'exécution... De l'écriture cinématographique, quoi. C'est très, très simple.
En tout cas, dans ces séries qui racontent la vie d'un foyer, la vie d'une
intimité. Oui, dans ce genre-là, je veux dire. Oui, parce qu'après, c'est pas forcément le cas. Mais dans ces sitcoms, en fait, puisque c'était des sitcoms, c'est comme ça que ça s'appelait, oui, il y avait cette idée-là.
Et donc, Rosanne, on le disait, et puis on l'a vu, c'est quand même un personnage de mère indigne, mais extrêmement attachante, et extrêmement tendre aussi avec ses enfants, avec son entourage. Est-ce que ce personnage de mère vous a inspiré pour la série que vous êtes en train d'écrire ou pas ? Parce que je crois qu'il est question de maternité.
Oui, alors c'est pas tout à fait ce personnage-là qui m'a inspirée. C'est plus des femmes d'une génération que j'ai connue, comme ma mère, comme d'autres femmes, Et parce que ma série qui s'appelle Nona et ses filles, c'est l'histoire d'une femme de 70 ans qui est militante féministe, qui a ouvert le premier planning familial à la Goutte d'Or et tout ça, et qui se retrouve du haut de ses 70 ans enceinte. Et donc c'est une catastrophe parce qu'elle a évidemment pas envie du tout d'être enceinte à 70 ans. Et donc c'est un phénomène, personne ne comprend comment c'est possible et tout ça, à part qu'elle a une sexualité, que c'est pas du tout un désir, mais qu'elle a encore une sexualité active et tout, elle a un mec et tout, donc le problème c'est que c'est pas lui le père de l'enfant, donc on n'y comprend rien, enfin bon, bref, donc ça devient une espèce d'objet comme ça qu'il faut étudier, et c'est vraiment l'idée de parler de la maternité à la fois comme super pouvoir et en même temps comme super poison, quoi. Et le fait de choisir une femme de 70 ans, c'est aussi pour montrer la vulnérabilité, à la fois que ça peut être choquant, puisque c'est ce que ça crée, du scandale, et en même temps la vulnérabilité d'une femme de 70 ans qui doit porter un enfant, c'est qu'elle doit peut-être risquer sa vie pour ça. Et donc cette femme a des filles qui sont, elles, triplées, qu'elle a eues normalement, et qui sont nées dans les années 70, et donc qui reviennent... dans l'appartement de leur mère pour s'occuper d'elle et en même temps parce qu'elles ont toutes une bonne raison pour revenir. Donc c'est vraiment autour d'une mère et de la relation à ses filles et de comment c'est une mère aussi forte et difficile à tuer, donc peut-être qu'elle va se calmer si enceinte finalement elle va peut-être arrêter de faire n'importe quoi et de se calmer, etc. Donc voilà, c'est tout ça qui m'intéressait et ça se passe dans un foyer qui est la rue Poulet, là où elles habitent dans le 18e. Et la série est sur ce thème-là. Donc oui, je ne me suis pas vraiment inspirée de Rosanne, parce que le personnage de Nona, c'est une intellectuelle, plus c'est une femme militante, politique. Et voilà, c'est vraiment pas du tout le même cas de figure, mais c'est quand même une femme à qui les filles ont beaucoup reproché, parce qu'elle a élevé seule ses filles, puisqu'en fait, le père, elle ne le connaît pas, c'était un coup d'un soir, etc. Et les filles donc, ont beaucoup reproché à leur mère d'avoir été justement trop moderne, quoi, de travailler, de jamais être là, de ramener des mecs à la maison, ou bien des nanas. Enfin, bon, elle dit, à un moment donné, il y en a une qui dit la normalité, ça fait du bien aussi. Donc c'est vraiment sur une génération qui est plus la mienne d'enfants qui ont été élevés par des femmes de la génération 68. Quoi. Donc c'est ça qui est un peu... qui m'intéressait à traiter. Enfin,
Et vous réaliserez ?
Oui, c'est moi qui réalise tout. C'est moi qui ai tout écrit avec une co-scénariste qui s'appelle Clémence Madeleine Perdria. Et puis c'est une idée originale, donc j'ai pas. Enfin, je l'imagine c'est comme un long film en fait. Donc oui, j'ai pas envie de déléguer. C'est pas quelque chose de formaté du tout.
Et vous ne jouerez pas ?
Si, je joue une des filles.
D'accord.
Ouais.
Et est-ce que...
Normalement, c'est tout. Enfin bon, bah, le casting est un peu compliqué.
D'accord.
On dirait pas plus.
On avait quelques petites rumeurs, mais vous ne confirmerez, n'infirmerez rien. C'est ça ?
Rien du tout.
Donc, si je vous écoute, vous la voyez comme une série quand même relativement féministe, cette série.
Oui, complètement, oui. C'est pas relatif, c'est complètement... C'est Nona et ses filles. Alors, il y a des hommes, bien sûr.
Il y a des personnages masculins.
Oui, il y a beaucoup de personnages masculins. Il y a le sage-femme de Nona, il y a un personnage qui s'appelle Antoine, il y a le mari d'Emmanuel qui s'appelle Manu, il y a André, l'amant de Nona. Non, il y a beaucoup de personnages d'hommes, il y a Manu qui a 4 garçons. Mais c'est quand même sur la question de la féminité, et des femmes et justement de comment évoluer en tant que femme, comment, enfin voilà. Et puis il y a aussi la question du planning familial qui doit évoluer. Enfin, c'est vraiment autour de ça, quoi. Autour de la maternité, de qu'est-ce que c'est que de, qu'est-ce que c'est que cette chose de pouvoir porter un être vivant en soi. Les femmes qui en veulent, les femmes qui en veulent pas, elles ont tout un point de vue différent par rapport à ça. Elles ont toute une histoire différente par rapport à la maternité. Et c'est ce personnage de femme de 70 ans qui doit aller au bout de cette grossesse, qui a essayé d'avorter, mais ça n'a pas marché, parce que le fœtus s'est échappé. Enfin bon, c'est un peu barré. Hein. On n'est pas complètement dans un truc très réaliste. La série est assez fantastique. Elle a un petit côté fantastique quand même. Je tiens à prévenir.
Et qu'est-ce qui fait que ce projet-là était, était taillé pour devenir une série télévisée plus qu'un film ?
Bah parce que justement, je trouvais que c'était bien d'être avec les personnages. Enfin, c'est vraiment ça qui m'a intéressée. C'est que chaque personnage a une évolution, a une trajectoire. A une, et c'est vrai qu'au cinéma, c'est pas la même narration. Donc c'est différent. J'imaginais pas ça en film, en fait.
Et comment vous écrivez avec votre co-scénariste, toutes les deux en même temps, chacune sur un épisode
Non, vraiment on écrit en même temps. Alors moi j'ai pas tellement, elle a quand même plus d'expérience de la série, puisqu'elle en a déjà écrite, donc disons qu'elle cadre un peu le travail, et moi j'écris plus des scènes qu'elle retravaille après. Au début c'était peut-être un peu comme ça, enfin vraiment on travaille ensemble, quoi. On écrit vraiment à quatre mains. Depuis le début.
Et vous avez joué dans quelques séries françaises, moi je pense notamment à Clara Scheller.
Oui, c'est vrai. Mais moi j'adorerais, hein. Je trouve ça génial d'être acteur de série, enfin dans une série, je trouve ça super parce qu'on retrouve le personnage. Enfin, là j'ai tourné dans 10% par exemple, et je pense que ça va être hyper marrant de faire un personnage, un vrai personnage récurrent. C'est rigolo parce que c'est des aventures qu'on suit. Alors je discutais d'ailleurs avec les acteurs de la série, ils disaient « Ah oui, en même temps c'est bizarre, quand on y revient, on est un peu perdu, il faut retrouver ses marques. » Donc je pense que ça doit aussi avoir des choses contraignantes, mais je pense que ça m'aurait amusé, oui.
Vous jouez votre propre rôle dans 10%?
Oui, je fais une petite apparition, oui.
D'accord.
Je joue mon rôle qui cherche un acteur pour mon film et qui va prendre un agent plutôt que de prendre un acteur.
D'accord. Et le rôle dont vous rêveriez, par exemple, que vous adoreriez interpréter dans une série, ça serait quoi ?
Ah, je crois que ce qui est marrant, c'est quand il y a un métier...
Exotique ?
Ouais, enfin genre détective privé, ça va être drôle. Une sorte d'Arsène Lupin. Non, mais j'en sais rien, en fait. C'est surtout le personnage qui est marrant. Mais après, oui... je sais pas. Enfin, j'ai pas... Mais je me souviens que j'avais... quand j'avais joué dans Clara Scheller, le personnage de Clara Scheller était marrant quand même. C'était, moi, mon rôle, il était moins marrant. C'était genre la copine, avocate et tout. Je trouvais ça un peu... Elle m'amusait pas des masses. Mais Clara Scheller, je te la trouvais rigolote, ouais.
Donc, une nouvelle Clara Scheller, peut-être.
Ouais, enfin, j'en sais rien. Non, mais je trouve ça marrant, oui. Je trouve ça rigolo de retrouver un personnage comme ça.
Alors, peut-être, je vous propose de regarder un nouvel extrait d'une série dont vous m'avez dit que vous l'aviez vue et que vous l'aimiez bien. Donc, peut-être qu'un jour, vous pourriez trouver un rôle dans cette série-là.
Oui, c'est cool.
On va voir l'extrait numéro 5, s'il vous plaît.
Ah oui!
C'est bien que tu sois là, parce qu'en ce moment,
quoi ?
On a un coup de chaud.
Quel genre ?
Genre où c'est rien, où c'est un vrai cauchemar. J'aimerais que tu t'occupes du prochain clandestin en partance.
Tu veux que je le forme ?
Que tu supervises sa préparation, disons. C'est pas tous les jours qu'il y en a un qui revient et un autre qui part.
Va où ?
Elle va en Iran.
Ok.
Iran چیکار میکنی؟
من تو مرکز بین المللی ژئوفیزیک تهران در بخش زلزله شناسی کار میکنم.
کار دقیقا چیه؟
کار من تشخیص میزان ریسک زلزله در مناطقی که میخوان نیروگاه حرارتی یا هسته‌ای بسازن هست.
حرفاتو خوب حفظ کردی پچیاره. دیگه چرت و پرت تعبیرم ندیا. خوشم نمیاد یه پچیاره فکر کنه خرم. ایران چه غلطی میکنی؟ Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas compris?
Non.
Il faut apprendre aussi le farci des rues, mademoiselle. C'est pas des profs délicats qui vont vous interroger si jamais ça vous arrive. C'est des flics, des mecs grossiers, des porcs. Okay. Si vous les comprenez pas, ça va poser un problème. Désormais, c'est avec ça que vous allez apprendre, ok?
Ok. Mais ça peut arriver qu'il y ait des flics qui m'interrogent comme ça?
Bah oui. En Iran, vous pouvez vous faire interroger et arrêter n'importe quand pour n'importe quoi. Ça veut rien dire du tout, justement. Mais si vous comprenez rien, vous allez paniquer. Ok?
Ok.
Je présente Guillaume de Bailly, que vous connaissez mieux sous le nom de Malotru.
Bienvenue. Très heureux de vous retrouver.
Merci. Merci.
Bienvenue. Je suis Rime. Je suis la secrétaire de Henri Duflo.
Enchanté.
Austerlitz. Je m'occupe d'Ostrogo, le clan des Chinois.
D'accord. Enchanté. Ça fait plaisir de vous revoir, Malotru. Bonjour, Jean-François. Ça va? Bienvenue au bureau des légendes. Merci beaucoup.
On se la bise?
Allez. C'est bizarre.
Ouh là là, oui. En 3D, c'est différent.
Non, un rôle de clandé dans le bureau des légendes?
Ah non. Je trouve ça trop sérieux. Je me vois pas du tout en tailleur, à prendre l'Iran, l'Iranien. Ah non. Non, je trouve ça marrant à regarder, mais je crois que ça me plairait pas trop, non, de jouer dans le bureau des gens. Non.
Ça manque de fantaisie.
Ah oui, quand même.
Mais ça fait partie des séries françaises que oui, vous avez vues et
oui,
et
que j'ai vu. Enfin, j'ai vu la saison 1. Maintenant, je sais pas combien il y en a.
Quelques-unes.
Mais j'ai vu que la saison 1, et oui, j'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais. Ben, ça faisait un peu le truc fait un peu à l'américaine, justement, où il y a les moyens. D'ailleurs, je crois que ça a été tout son principe de travail à Eric Rochand, c'était de réunir, de faire un pôle d'écriture, comme aux États-Unis, avec le principe du showrunner et tout. Enfin, voilà, c'est très... c'est très calibré, quoi, très réussi, mais... ouais, je me vois pas là-dedans.
En vous ne voyez pas avec cette casquette-là non plus de showrunneuse d'une série?
Non, je crois pas. Je suis pas sûre d'avoir les capacités pour ça. Non, moi ce que j'aime, c'est inventer des trucs, créer des. Enfin, ce qui me plaît là avec ma série, c'est vraiment de la fabriquer comme un film un peu. Donc voilà, j'arrive pas du tout à déléguer la mise en scène, par exemple.
D'accord.
Et je pense que ça va pas ressembler à vraiment une série. Ça va être un peu bizarre comme truc. Je sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais...
Vous avez déjà des pistes de mise en scène, de choses vers lesquelles vous aimeriez tendre?
Non, c'est pas ça. C'est tellement contraignant sur la durée de tournage, sur les budgets, tout ça, que déjà, il faut le prendre en compte dans la fabrication. Déjà, je l'ai pris en compte avec l'écriture. C'est pour ça que ça se passe. J'ai essayé de réduire les décors. J'ai essayé de, parce que c'est des budgets qui sont pas ceux de Canal Plus non plus. Voilà, ça a forcément joué sur la mise en scène. Et déjà, ce que je me suis dit, c'est que j'allais pas essayer de faire du cinéma avec de la série, parce que ça, je trouve que du coup, tout se ressemble, tout est un peu fait pareil et tout. Non, ce sera une série, mais. Je ne peux pas vous dire encore parce que je ne l'ai pas faite, mais j'ai des idées assez précises, oui.
Et puisque vous me parlez justement de la différence entre le cinéma et les séries, quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit que vous auriez adoré voir ce que ça aurait pu donner, Éric Rohmer, diriger une série.
Ah oui, parce que je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de passionnant, parce que comme il avait une économie dans ses films assez petite, avec une mise en scène, je pense que ça serait... Et puis même ce que racontent les films d'Éric Rohmer, qui sont vraiment sur du marivaudage, sur... je pense que ça aurait été intéressant. Il aurait tout à fait pu faire quelque chose de chouette.
Ouais, la nouvelle vague aurait pu... faire, effectivement.
Oui, je pense que mais c'est un peu une forme de nouvelle vague, toute cette créativité pour la série, la télévision et tout ça. C'est d'un coup, quand même, c'est important, là, tout ce qui s'est passé.
Mm-hmm. Vous voulez dire non.
La qualité des séries et tout ça. Enfin, je veux dire, avant, c'était quand même... on était dans le feuilleton un peu concon, et puis d'un coup on a voulu aborder des sujets politiques, parler voilà à des s'adresser au plus grand nombre sur des, enfin voilà, je trouve que même quand, c'est vraiment par la série, le Cosby Show, tout ça, enfin c'était quand même sur la communauté noire, enfin il y avait des trucs comme ça, enfin c'est la série qui a ouvert toutes ces fenêtres, mm-hmm. en fait, donc je trouve que c'est, et ça n'a fait que évoluer parce que c'est plus récent que le cinéma, donc ça.
Et ça fait évoluer aussi, vous trouvez, le cinéma d'un point de vue formel, d'un point de vue...
Un peu, oui, c'est vrai. Parfois, il y a des films qui ont un peu la même mise en scène. Mais ça, j'ai l'impression que c'est pas forcément la série, c'est plus l'idée de la plateforme, l'idée de, que les films maintenant se regardent sur n'importe quel support et tout ça, qu'on est en train de désacraliser la salle, que maintenant, c'est ça qui a beaucoup joué aussi, oui.
D'accord. Alors, si on peut peut-être passer le micro à la salle, si quelqu'un a des questions. Non ? Alors, sinon, moi, je vais récupérer l'iPad, essayer de prendre des questions dans les médiathèques.
Je suis pas une pro de la série, je suis vraiment désolée, j'ai l'impression de... J'espère que je ne vais pas être déçue.
Attendez, il y en a certaines que vous connaissez très très bien.
Oui, non, mais je ne suis pas une experte en ça. Donc je ne sais pas si vous êtes fan de séries dans la salle. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas du tout experte en séries. Là, je vais en faire une, mais une mini-série. Mais c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir à comment cette chose-là a pris de plus en plus d'ampleur et comment c'est devenu un phénomène un peu de société.
Mais vous êtes tout à fait fondée à en parler, puisque vous êtes en train d'en préparer une. Non, peut-être, en coulisses tout à l'heure, on parlait de... Vous reveniez de la manif Nous Toutes, contre les violences faites aux femmes.
Ouais.
Vous trouvez qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire dans les représentations, dans les séries, au cinéma, sur...
Non, oui, y a encore beaucoup de boulot à faire, oui, d'une manière générale, mais je trouve que ça change aussi, ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne serait-ce que dans le Bureau des légendes, le personnage d'Anna c'est Sarah Giraudeau.
Mm-hmm. Sarah Giraudeau, phénomène.
J'allais confondre, pardon. Qui est hyper forte, qui est. Alors que c'est un petit brindis. Oui, j'ai l'impression que ça change, oui, quand même.
Mm-hmm. D'accord. Au cinéma ?
Ben, au cinéma aussi, enfin oui. Ben, c'est normal que ça change, puisque ça suit quand même les mouvements de société et tout ça, donc ce serait bizarre que ça ne change pas du tout.
J'ai une question.
Ah !
Bonsoir.
Bonsoir.
Pour réagir à une chose que vous avez dit par rapport à faire votre série, vous avez dit je vais la faire comme un film. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que vous l'écrivez que vous la réalisez, ou est-ce que ça veut dire que vous faites un bloc et vous le coupez en épisodes, ou est-ce que quand même les outils de la série télé, les cliffhangers, les chutes d'épisodes, etc., vous comptez les utiliser, ou est-ce que finalement c'est un long film coupé en épisodes ?
Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Alors non, c'est y a effectivement les ressorts quand même de la série, mais je m'en méfie aussi parce que je trouve que les séries, souvent, elles sont calibrées dans l'écriture pour justement qu'il y ait des ressorts, etc. Et au final, il n'en reste pas grand-chose. Elles ne sont pas très nourrissantes, je trouve. Enfin, j'ai pu m'apercevoir de ça. Donc, à la fois, il faut, je pense, tenir le spectateur en haleine. C'est un peu le principe. Mais en même temps, le nourrir de quelque chose de très incarné. Enfin, moi, ce que je voudrais, c'est que ce que ça raconte soit touchant, en fait. Qu'on soit... qu'on suive autant le suspense, j'ai envie de dire, que le côté humain de la série. Donc voilà. Alors après, quand je dis que je le pense comme un long film, c'est que c'est un peu comme ça que je pense mes films aussi, c'est-à-dire avec quelque chose qui doit être nourrissant, voilà, qui a un fond et en même temps de la forme. Donc c'est un peu le principe. Mais par exemple, je m'étais renseignée sur... je crois que c'était Carlos qui avait fait... c'était Assayas qui avait fait Carlos. Et en fait, il s'était arrangé, lui, pour faire des longs plans séquences qu'il tronçait. En fait, il les montait entre eux. Parce que, justement, pour gagner du temps. Et je trouvais que ce n'était pas complètement idiot. Alors après, ça ne s'y prête pas forcément sur ma série et de Nona et ses filles. Mais je trouvais que c'était intéressant. Donc c'est plus à des choses comme ça. Quand je dis que je le pense comme un film, c'est-à-dire que la mise en scène... Un film, on le pense comme une équation, c'est-à-dire que la mise en scène doit toujours servir le film dans sa narration. Et donc, c'est exactement comme ça que j'imagine la faire, la série. Pas, c'est pour ça que je dis que je ne pourrais pas déléguer. Je pense que ce n'est pas formaté dans l'écriture. Ça va être quelque chose d'assez précis. Je ne sais pas encore quels seront exactement les outils, mais je suis en train de réfléchir à tout ça, en fonction du temps que j'aurai, en fonction de qu'est-ce que je veux raconter, en fonction de... Voilà.
Il y a une question qui nous arrive de Bordeaux ou Clermont-Ferrand, je ne sais pas, pardon, et qui demande simplement quelle chaîne programmera la série.
C'est Arte.
Et on peut espérer voir ça quand ?
Ah ben, alors ça, je pense que ce sera l'année d'après, en 2021.
Ok. Bonjour. Moi, je voulais vous poser une question, Valérie Donzelli. C'était justement en termes d'écriture. Quelle est selon vous la part, l'importance du silence qui peut y avoir entre deux épisodes? Enfin, c'est une autre manière en fait de, c'est une manière de rebondir sur la question que posait Pierre Langlais. C'est vrai que la plupart du temps, les séries sont regardées avec un laps de temps en fait où se crée le manque pour le spectateur qui attend le prochain épisode. À votre avis, dans l'écriture d'un scénario de série, comment on peut jouer justement sur ce silence, sur le fait que d'une semaine à l'autre, le spectateur va s'approprier finalement ce qui s'est passé? Est-ce que, en termes d'écriture, c'est quelque chose dont les scénaristes tiennent compte? Et voilà, quelle est l'importance de cette, comment dire, de ce feuilletonnage, on va dire.
Oui, c'est intéressant, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un peu biaisé, cette chose-là, parce que les gens regardent les séries beaucoup d'une traite. Donc, c'est vrai qu'avant, on attendait une semaine pour voir un épisode et tout ça. Alors, moi, ce que je sais déjà, c'est que sur Arte, ce sera diffusé par soirée de 3 épisodes, donc c'est 1h30 de programme. Donc, on les pense un peu comme 1h30. Mais je trouve que c'est intéressant parce que là, comme on n'a pas complètement terminé, je pense que c'est quelque chose que j'appliquerai sur le retravail. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire on regarde tout d'une traite, parce qu'aujourd'hui, après, on regarde sur les replays et tout ça, et c'est, on peut tout voir en une soirée. Et souvent, il y a, je ne sais plus, il y a un terme pour ça, il y a des gens qui...
Binge-watching.
Du binge-watching, voilà, c'est ça. C'est très élégant.
Vous n'êtes pas dedans?
Non, pas du tout. Alors, moi, ça m'angoisse complètement. Donc, non, je ne suis pas bitch pour un sou. Non, mais moi, je dis bitch parce que je suis... j'ai le cerveau à l'envers. Je n'entends jamais les bons mots. Donc, voilà. Et tout ça pour dire que non, mais c'est vrai que au départ, c'était pensé pour être... pour tenir les... Oui, complètement. Et d'ailleurs, moi, je me souviens que quand je regardais les épisodes de Dallas et tout ça, c'était ça, il fallait attendre une semaine. Donc, s'il y avait Metz, c'était l'horreur, quoi. On avait loupé tout. Et la suite. Non, mais c'est vrai que maintenant, c'est un peu biaisé, ce truc-là, avec les plateformes. Enfin, avec le fait qu'on peut tout voir en. Par Internet, enfin, je vais parler comme une vieille, là, mais je ne sais pas comment on dit. Oui,
tout à fait, on a tout en ligne d'un seul coup, oui, souvent. Y a une autre question qui arrive d'une médiathèque, qui est « Qu'est-ce que vous pensez de Desperate Housewives ?» Si toutefois, vous pensez quelque chose de Desperate Housewives.
Ah oui, alors ça, je n'ai pas vraiment vu.
Oui, le principe des femmes désespérées, c'était pas inintéressant, je trouve, sur le. Mais je crois que j'ai vu un ou deux épisodes, puis j'ai pas complètement regardé, mais je me souviens que c'était pas mal quand même sur le principe de ces nanas, femmes au foyer déprimées. Oui, bah, je trouvais que c'était pas mal, je crois, mais j'ai pas très bien vu. Je suis désolée. Je connais pas assez, en fait, pour.
C'est
avoir...
pas grave, on peut pas tout voir.
Mais le principe était pas mal, je trouve.
Merci. Bonsoir.
Bonsoir.
Les séries que vous avez mentionnées, là, c'était surtout des séries qui ont 30-20 ans. Est-ce qu'il y a des... Non, mais c'est pas un reproche. C'était non, juste, est-ce qu'il y a des séries plus récentes ? Est-ce que vous avez eu des coups de cœur récemment ?
Oui, alors moi, j'ai beaucoup aimé Love, la série de d'Apatow, mais qui n'est pas hyper récente, qui doit avoir 2-3 ans, je crois. Peut-être 4 ans. Que j'ai trouvé très belle, en fait. J'ai aimé le rythme, j'ai aimé... Ce qu'elle racontait, cette rencontre de ces deux paumés, tout ça. Enfin, j'ai trouvé la série vraiment réussie. J'ai vraiment été émue et tout. Enfin, je me souviens que ça a été un vrai coup de cœur. Après, j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu comme série Après, il y a des séries que j'ai vues, mais ça n'a un peu rien à voir. C'est des séries documentaires, notamment celle sur le rap, là, sur Netflix.
The Get Down.
Ouais. Alors, j'ai pas tout vu encore, mais c'est assez passionnant, je trouve. Oui, les séries documentaires, ça c'est un nouveau truc que je trouve super. Et après, j'ai vu la Mrs. Marple, je crois. Non, Maisel.
Maisel,
oui. Mrs. Maisel, voilà. Alors, ça, j'ai vu l'épisode, la série numéro 1. Et, j'ai trouvé ça pas mal. Et la série 2, j'ai trouvé ça vraiment pas bien. Et donc, je me suis complètement. Mais. Ce que je trouvais pas mal, en fait, je trouvais que ça n'avançait pas non plus. C'est-à-dire que je pensais que le propos serait plus fort, quoi, sur justement ce personnage de femme des années 50 qui se prend en main, qui veut devenir, qui veut faire du stand-up, qui a un métier d'homme et tout ça. Je pensais que ça irait plus loin, en fait. J'étais un peu déçue par la suite. Et puis, sinon, qu'est-ce que j'ai vu ? Ben, Fleabag. Mm-hmm. J'ai pas tout vu encore, mais je trouve ça pas mal, mais un peu sombre quand même. J'ai un peu du mal avec ça, le côté très sombre et tout. C'est pas un humour qui m'enchante complètement. Et puis sinon, voilà.
Est-ce que vous avez un goût du stand-up ? Parce que Seinfeld et Marvelous Mrs. Maisel, tous les deux évoquent un peu ça.
Oui, mais d'ailleurs, la série de Larry, là, c'était super, ça. Ça, j'avais adoré. J'avais oublié d'en parler.
Larry et son nombril, c'est ça ?
Oui. Mmh. Où il est tout seul et complètement déprimé avec ses gosses, ses t-shirts dégueulasses et tout ça. Elle est super, cette série. Est-ce que j'ai un goût pour le stand-up ? Oui. Pas plus que ça.
Non. Ok.
Une petite question.
Oui ?
De province. Non, dans votre film, la guerre est déclarée, dans l'aspect médical, vous étiez arrivé à faire passer des choses qui étaient à la fois très, très justes, très référencées, avec cette distance absolument éblouissante. Et dans votre future série, il y aura aussi un côté médical, si j'ai bien compris, avec aussi plus fantasmé, plus... Et vous allez quand même... vous allez essayer que ça soit en partie réaliste ou on sera vraiment dans quelque chose de très décalé de
Non, non, ce sera très réaliste, oui.
Ça sera très réaliste.
Alors, c'est particulier, d'ailleurs...
Jusqu'à un certain point, quand même.
Oui, jusqu'à un certain point, mais oui, c'est pris très au très premier degré. C'est D'accord. pas... En général, ce que je fais, c'est assez premier degré, d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'ironie dans mes films.
Premier degré, c'est un cinquième degré, un troisième, un quatrième, un deuxième... Vous avez des degrés...
Non, mais quand je dis premier degré, c'est que je ne fais pas les choses avec ironie, je crois. Même en racontant l'histoire d'une femme de 70 ans qui tombe enceinte, c'est pas du tout... on est vraiment avec elle. Enfin, on y croit complètement. Enfin, je crois.
Oui, oui, oui.
L'idée, c'est vraiment qu'on
y
croit.
Non, ironie, pas du tout. Mais vous avez à la fois une espèce d'empathie, mais avec quelque chose qui est de l'ordre d'un humour, mais qui n'est pas dans le jugement.
Oui, il y a toujours de la comédie, toujours, parce que c'est ce qui apporte de la pudeur, je trouve. Mmh. Enfin, moi, hein, c'est ma façon de faire les choses et tout ça. Et pour moi, c'est très important qu'il y ait toujours ce voile
pudique qui passe par de la fantaisie, de la comédie, de la poésie, enfin quelque chose un tout petit peu décalé qui amène un peu de drôlerie. Enfin, je crois que dans la vie, je peux pas m'en passer non plus. Enfin, je trouve que sinon.
Donc là, on a envie de voir parce que on imagine un peu. Ça.
Ouais. Bon, bah, il faudra. Non, mais je crois que ça sera drôle et émouvant. Enfin, ouais, c'est ce que j'aimerais.
Enfin, c'est quand même un peu votre spécificité de d'arriver à faire passer les choses quand même des choses complexes et émotionnellement bouleversantes avec cette distance qui est difficile à définir mais qui est vraiment impressionnante quoi.
Ben, j'espère que j'y arriverai là aussi. Voilà. Mais après, c'est sûr que ce sera pas forcément. C'est ça qui est difficile, c'est que la guerre est déclarée, j'ai tellement vécu les hôpitaux que je connaissais exactement comment ça se passait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, je pense que quand on ne vit pas les choses, on a tendance à en rajouter ou à grossir certaines situations et tout, alors qu'en fait, voilà, parfois.
Peut-être que vous vivrez ça dans une trentaine d'années, votre. On ne sait pas.
Ah, j'espère pas. Non, moi j'arrête les enfants. Ouais. Trois, c'est bon. J'ai bien travaillé.
Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Non, je crois que non plus côté médiathèque. Dans ce cas-là, je vais vous remercier au nom de Télérama et puis au nom de la PPI. Merci beaucoup Valérie d'être venue. Nous parler des séries qui vous ont accompagné. Merci à vous d'avoir été fidèles fidèles et attentifs. Et je vous inviterai à 20h, si le cœur vous en dit, à aller découvrir la nouvelle série de France 2 qui s'appelle Une belle histoire et qui est la nouvelle qui sera diffusée un épisode en avant-première. Et en présence du showrunner, et la séance sera animée par Pierre Langlais, mon camarade. Voilà. Alors, c'est une belle histoire, c'est une comédie chorale. Non, qui se passe dans une ville du Nord-Pas-de-Calais, je crois, et qui est une comédie romantique plutôt autour de personnages de trentenaires, et qui est assez réussie. Alors, il y a Sébastien Chassagne, Tiphaine Davio, voilà. Je regarde Pierre qui est dans la salle, notamment. Et puis, Cédric Ben Abdallah aussi. Et
ça sera diffusé quand ?
Dans une demi-heure.
Dans une demi-heure à la BPI. Et puis sinon.
Non, mais sinon, dans le.
Dans quelques mois, hein, je crois, sur France 2.
Ah, d'accord.
Voilà.
Donc, très bien.
Une vraie avant-première.
Super. Bon, ben merci beaucoup d'être venu.
Merci, bonne soirée.